Nous poursuivons notre discussion sur le crime qu'a commis Jordan Peterson pour se mériter autant de hargne et d'agressivité. Vous écoutez après coup. On parlait la dernière fois de Jordan Peterson, puis on s'est dit que ça pourrait être intéressant et pertinent de se concentrer sur un moment marquant qui a vraiment fait exploser sa carrière, c'est-à-dire pas sa carrière, il y a eu une carrière avant, mais
sa popularité.
Visibilité, sa popularité internationale, et dont on a... C'est comme effleurer un petit peu la question la dernière fois, c'est l'entrevue qu'il a eue avec Cathy Newman, qui est une animatrice d'émissions d'affaires publiques à Channel 4.
Channel 4.
En Grande-Bretagne. Et cette entrevue-là est vraiment intéressante.
À plusieurs égards.
Absolument. Révélatrice de tellement de choses que ça a fait réagir... la blogosphère, la twittosphère, le monde Internet, et ça a propulsé donc Jordan Peterson à l'avant-scène mondialement.
Puis donc, c'est des détails, mais juste pour situer, au départ, c'était une entrevue, je pense que quand elle a été diffusée à Channel 4, elle a duré 4 ou 5 minutes, donc c'est très monté, parce que l'entrevue au complet dure...
une vingtaine de minutes.
Ouais, sinon
22,
plus. Hein.
Une demi-heure.
Ouais,
peut-être.
Je pense une demi-heure. Mais donc, elle avait fait un montage... Mais je ne sais pas trop pourquoi, je ne pense pas qu'on le sait, mais le Channel 4 a décidé de mettre la version intégrale disponible sur YouTube. Et je crois que c'est potentiellement cette version-là. En fait, pas je crois. La version sur Channel 4 avait évidemment été vue par le monde en Grande-Bretagne, puis qu'il y avait peut-être beaucoup de gens pour la voir, mais tu sais, c'était à une heure spécifique, une journée spécifique. La version sur YouTube, comme de raison, est disponible pour le monde entier. Et ça fait... Il y a eu des millions et des millions de vues.
24 millions
In counting.
In counting, parce qu'il n'y a pas seulement les vues directement sur la page YouTube de Channel 4. Il y a les vues sur d'autres blogs ou d'autres chaînes qui ont récupéré récupéré l'entrevue pour en faire, par exemple, un commentaire.
Ouais.
Ça a été vu partout, puis ça l'a transformé un prof d'université qui avait des opinions un peu tranchées et controversées sur certains sujets en vedette mondiale et un des intellectuels les plus en vue du monde contemporain.
Là, est-ce qu'on peut dire, comme moi, à mon sens, parce que j'ai réécouté, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réécouté, ça a vieilli d'une façon où, pour moi, ça apparaît encore plus manifeste que l'intervieweuse, à savoir Cathy Newman, n'a pas fait une très bonne entrevue. À mon sens, elle est arrivée assez chargée, avec un personnage qui voulait le mettre, pas nécessairement le mettre en boîte, mais qui voulait lui mettre, lui garrocher plein d'affaires qu'il avait dites, qui n'étaient pas correctes, puis le mettre en boîte. Puis il ne s'attendait pas nécessairement à ça, mais comme il répondait... d'une façon assez tranchée, là, ce qui lui est caractéristique. Hein, souvent, si tu lui dis à Jordan Peterson, vous avez dit telle chose, c'est pas exactement ce qu'il a dit, il va te prendre sur un mot. Pis...
Oui, il écoute vraiment ce qu'on lui dit, il répond vraiment à ce qu'on lui dit. C'est une particularité à lui.
Ouais. Et une autre particularité aussi, qui est quand même pas la. Il va pas de soi, c'est son assurance parfois à dire, ben ça, on le sait, c'est prouvé. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Il n'y a aucun doute, historiquement. Tu sais, des trucs très tranchés sur des sujets parfois où les gens vont dire nécessairement, ben, je comprends votre point de vue, j'ai mon point de vue, chacun a son point de vue.
Oui.
Il a sa propre idée très, très claire et qui dépasse donc une opinion.
Oui. Bien, en fait, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à l'avant-scène On s'est senti obligé d'inviter parce qu'il était en train de devenir un phénomène sur les réseaux sociaux, mais c'est pas quelqu'un qui fréquente nécessairement les médias, c'est pas quelqu'un qui est intéressé à ce genre de visibilité-là, c'est-à-dire de se présenter comme l'expert de telle question, encore qu'il a fait un peu de télé avant, mais en tant que prof, pas en tant que spécialiste comme ceux qu'on voit, là, les spécialistes médiatiques. Tu sais, là, il y a des gens qui... Ça s'enseigne dans les ouais. ordres professionnels, comment parler aux médias, tu sais.
Mais toi, est-ce que tu penses que c'était pas son but d'avoir cette notoriété-là? Parce que ceux qui l'aiment pas disent souvent, quand on regarde son parcours, il a à plusieurs reprises essayé de percer de différentes manières, de faire des choses
ouais,
qui auraient un
écho. Oui, c'est ce que tu disais la dernière ouais. fois. Je sais pas, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne parle pas la langue des médias.
Ah oui,
il
non,
ne
dans
parle
ce sens-là.
Pas la langue encapsulée.
La nouvelle langue des médias.
C'est ça, la langue à laquelle les médias s'attendent.
Oui, 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 oui. Absolument.
Qui peint les choses en couleurs très criardes
ouais.
et qui est incapable de rendre compte des nuances.
Tout à fait.
Il parle pas cette langue-là. Il écoute les questions, non pas en attendant son tour pour dire ce qu'il veut dire, comme on est habitué maintenant quand on regarde la télé, pour ceux qui regardent encore la télé.
Ouais.
Tu sais, c'est souvent des entrevues où tu as des questions préfabriquées, puis des réponses préfabriquées qui vont être dites, peu importe la question.
C'est un très drôle de dialogue, là.
Oui, oui, puis qui marche plus. C'est ça qui est... C'est ça qui est vraiment... C'est comme un accélérateur d'un changement qui était en cours, puis un accélérateur et un révélateur. C'est qu'il écoute vraiment la question, il est là pour répondre vraiment à ta question, mais comme il a vraiment écouté ta question, il te donne pas des réponses préfaites
oui.
parce qu'il ne pouvait pas s'attendre à cette question-là. Alors toi, tu lui soumets des questions qui présupposent comme une compréhension préfaite de sa pensée
ouais.
et t'es déstabilisé à chaque fois parce que sa réponse, elle arrive de là où tu t'y attendais pas, c'est-à-dire de là où toi-même tu parles. Moi, j'ai trouvé, la première fois que je l'ai vu, puis c'est pour ça que j'ai accroché comme plus que 24 millions de personnes sur la planète, j'ai trouvé qu'il était, dans cette entrevue-là en particulier, comme un clinicien dans une entrevue clinique.
Ah oui, hein?
Oui. T'sais, l'extrait le plus important, c'est quand Cathy Newman, qui est reconnue, semble-t-il, moi je la connaissais pas, mais tout ce que j'ai lu, c'est pour être une intervieweur...
Corsée,
tough, qui perd ses moyens complètement, parce qu'il la met face à ses contradictions.
Ouais.
Autour de la question de l'identité de genre, en fait.
Et de la liberté d'expression.
C'est ça.
Ouais.
Let me move on to another debate that's been very controversial for you. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns.
No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything.
Right.
That didn't happen.
You wouldn't follow the change of law which was designed
not
to
once
outlaw
it was law.
Discrimination.
No.
Why
now, well, that's
your...
what they said it was designed to do.
Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended?
Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like, you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable.
Well, I'm very glad I put you on the spot.
Well,
I'm
you get
glad
my, well, but you get my point.
Speech.
You get my point. It's like, you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on.
So
and that
you,
is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you, as far as I'm concerned.
So you haven't sat there and... I'm just trying to work that out. I mean...
Ha, gotcha.
You have got me. I'm trying to work
about
that through my head. Yeah, it took a while.
It did, yeah.
It took a while.
Et là, il lui dit, ben en fait... vous, dans cette entrevue, toi, tu me provoques ou tu me coupes, tu me bouscules, tu prends le risque de m'offenser pour un but plus noble qui est d'arriver à une certaine vérité puis de me oui. faire dire des choses. Puis, oui. puis il dit, moi, j'accepte ça. Il dit, on a ce pacte-là que j'accepte d'être offensé. Mais je ne suis pas offensé parce que je comprends que tu as un but plus noble. Et donc, l'idée, c'est que la liberté d'expression vers la vérité gagne sur la possibilité d'offenser l'un et l'autre, quelque chose qui est difficile à contrôler nécessairement parce que qui sait quelles sont les sensibilités de tous et chacun.
Oui, c'est ça. Puis si on est concentré autour de la question d'éviter de formuler un certain nombre de choses ou de nécessairement obligatoirement formuler un certain nombre de choses pour ne pas offenser, on n'arrive plus à penser.
Oui.
Pour penser, il faut prendre le risque d'offenser les autres. Mais dans ce contexte-là, c'est qu'il est sorti complètement du narratif, comme on dit de nos jours,
oui.
qu'elle voulait, elle,
mettre en place.
Hein. Mettre en place. Il est sorti complètement de ça.
Oui.
Il est arrivé par la bande, comme il fait souvent, parce qu'il réfléchit. C'est ça que je sais, c'est qu'il est vraiment en interaction.
Oui, puis ce que tu disais tantôt, pour moi, tu sais, tantôt, j'avais pas nécessairement cet exemple-là en tête, mais tu sais, quand tu disais que c'était une entrevue clinique,
oui.
c'est que c'est vrai que c'est un truc, en guillemets, d'être clinicien, à un moment donné, de commenter le ici et maintenant.
C'est ça.
Et c'est ce qu'il fait là. Il sort de la théorie, il sort de, ouais, ben, les gens, la liberté, des grands concepts abstraits en disant, ben, ici, maintenant, voici ce qui se passe. Toi, tu prends la liberté de m'offenser parce que tu as des questions à poser, puis tu me coupes, puis tu m'interromps, puis c'est correct, puis tu fais bien.
Sauf qu'avant de lui dire c'est correct, puis c'est bien, il change de ton.
Oui.
Ça a été plutôt inconfortable. Oui.
Mm-hmm.
Toi, tu t'es senti à l'aise. Vous vous êtes senti à l'aise de m'offenser au nom de la vérité.
Oui.
Ça a été plutôt... C'est plutôt inconfortable. Je suis plutôt mal à l'aise.
Oui.
Puis elle se met à cafouiller.
Oui.
C'est là qu'elle est complètement sortie de son rôle.
Elle perd un peu ses moyens pendant quelques secondes.
Et là, il lui dit, mais c'est parfait. C'est ça que je veux dire, en fait. Puis son silence à elle se prolonge. Elle n'est pas capable de retomber sur ses pieds.
Oui.
Puis il lui dit, gotcha.
Ouais.
Tu vois, je t'ai eu, hein?
C'est ça.
Oui, c'est vrai.
Puis elle l'a dit, je suis un peu déstabilisée, puis tu dis, ouais. Mais aussi parce que ce qu'on a appris, ce qui a été dit par la suite, parce que, bon, pour avoir écouté des entrevues avec Jordan Peterson les journées suivant cette entrevue-là, c'est que ce qu'il raconte, c'est que il se présente à Channel 4, il est dans ce qu'on appelle le green room, l'espèce d'endroit où t'attends avant de passer en onde.
Non, ça c'est l'autre. Il y a deux entrevues. Il y a l'entrevue avec Kathy Newman,
ouais.
dont il dit qu'elle a été très professionnelle et très chaleureuse, tu sais,
mm-hmm.
Courtoise
mm-hmm.
avant l'entrevue. Et il y a une autre entrevue dans le même... un peu la même logique, mais avec une autre personne d'un autre type qui s'appelle Helen Lewis, qui, elle, n'était pas du tout accueillante, était très froide et très hostile.
Mais moi, je faisais référence à celle-là avec Kathy Newman.
Okay, pardon.
Ben, en fait, non, mais tu l'as dit, c'est correct. Il décrit que dans le green room, elle est très cordiale okay. correctement. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme des plaisanteries, comme on dit en anglais, des pleasantries, ça va, blablabla. Puis que là, il arrive sur le plateau, il s'installe, puis là, il dit, on a un échange qui est encore là cordial, est un peu distraite comme on peut s'attendre à ce qu'elle soit, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires à régler, puis c'est un peu le stress d'avant-entrevue. Mais ce qu'il décrit, par contre, c'est que quand l'entrevue commence, là, elle rentre dans ce que lui, il appelle « her persona ». Là, elle prend un autre ton, un autre rythme, beaucoup plus combative, et ce qui l'a déstabilisé un peu.
Mm-hmm.
Mais aimerait que ça n'a pas trop paru, parce que, tu sais, il faut lui donner ça, là, il est prêt, il est très prêt à débattre et,
oui.
et à... Avec beaucoup, on disait dans l'autre podcast, avec beaucoup de sérieux, et il répond pas en disant c'est un bon point, j'avais pas pensé à ça. Là. Ce qu'il a pensé, il est prêt à en discuter, à en débattre, à dire sur quoi ça s'appuie, etc. Mais bon, fait que là, pour raconter, en fait, il y a ce moment-là charnière, donc le gotcha, qui après ça, puis bon, ben, faut en parler aussi, c'est que cet extrait-là a été beaucoup diffusé par la suite.
Oui.
Beaucoup, beaucoup.
Oui, oui, tout à fait.
Mais trop.
Mais c'est une affaire épouvantable. Là. Ça, c'est des dizaines de millions de vues, puis de sous-produits, d'extraits. Ouais.
Mais c'est ça, c'est là aussi qu'on vit. Puis moi, je me répète, mais je pense que c'est pertinent de me répéter. Parce que je pense que c'est vraiment un phénomène qu'on vit, qui est nouveau, puis avec laquelle on est certainement encore en train de se débattre, d'essayer de déterminer les contours. C'est-à-dire cette affaire-là d'avoir des extraits ou des mèmes qui courent sur TikTok ou sur Twitter, qui en l'espace de 48 heures peut être vu par des milliers et des milliers de personnes.
Oui.
Puis c'est sûr sortir du contexte, parce que là, à partir du moment où ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est cet extrait-là où il dit « gotcha », puis il est content de l'avoir débalancé puis déstabilisé, ben là, sa réputation, son brand commence à se faire autour de la personne qui déstabilise le monde en entrevue.
Oui.
Et là, ça donne que c'est une femme, mais bon, ça fait partie du personnage. Et c'est vrai que dans un certain sens, c'est vrai qu'il l'a dit, on l'a vu, l'extrait, c'est arrivé pour vrai, mais c'est disproportionné l'importance que ça prend.
Oui.
Par rapport quand même à ce que c'était. T'sais, dans une entrevue, c'est quand même quelques secondes où tu discutes avec quelqu'un, puis tu dis quelque chose d'intelligent, puis l'autre personne est un peu déstabilisée, puis tu dis « Ah, je t'ai eu, hein! » Ça joue en boucle comme si c'était l'essentiel de sa personnalité puis de son message, de déstabiliser le monde.
Je l'ai vu cette semaine, récemment, interviewé par deux YouTubers qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Trigonometry. C'est des Britanniques là, qui font de la satire. Puis donc, ils ont réussi à l'avoir en entrevue, ce qui n'est pas facile, parce que tout le monde veut l'avoir. Après qu'il ait été absent pendant une année, les gens, en tout cas, il a manqué à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, il est reçu en entrevue, puis ils reviennent encore sur cette chose, sur cet épisode-là et ce moment-là. Ils reviennent encore là-dessus et ils re-racontent encore les deux entrevues qu'il met en contraste, donc celle avec Cathy Newman et celle avec Ellen Lewis, qui sont comme du même genre, mais avec deux personnes qui ont des approches un peu différentes l'une de l'autre, même si au départ l'intention était la même. Il y en a une qui s'est laissée atteindre par son argument qui visait essentiellement à trouver le sujet.
Mm-hmm.
Dans l'intervieweuse, et l'autre pas du tout. Il lui dit dans le courant de l'entrevue. En tout cas, il revient là-dessus, le contraste, parce que c'est ce qui l'a rendu populaire et c'est ce dont tout le monde a parlé, ce par quoi beaucoup de gens sont rentrés dans l'univers de Jordan Peterson. Et dans le courant de la conversation, à un moment donné, donc ça c'est très récent, là, de la semaine dernière ou la semaine avant, dans le courant de la conversation, à un moment donné, il commente ces entrevues-là et les commentaires négatifs qu'il a reçus, parce que lui aussi a reçu énormément de flack, comme on dit en anglais, après ces entrevues-là. C'est pas seulement Cathy Newman, parce que, bon, ça aussi, on devrait revenir sur la polémique qu'il y a eu autour de ça, là. Mais donc, il revient sur ces entrevues-là et il rapporte des commentaires qu'on lui a faits et des commentaires sous-jacents à l'entrevue elle-même à l'effet que comment ça, donc, monsieur, votre message plaît à des jeunes hommes?
Oui.
Comment ça, monsieur, vous trouvez ça normal, vous, que c'est surtout des jeunes hommes?
Oui.
Comment ça, monsieur, vous vous tenez avec des gens de l'alt-right, etc.? Il y a toute une façon de soupçonner Jordan Peterson d'un paquet de choses et de lui imputer un paquet de choses à cause de ce qu'on imagine des gens qui le suivent.
Ouais.
Et là, il dit, mais quel mépris est-ce qu'on manifeste pour ces gens-là? Puis, s'il y a plus d'hommes que de femmes, il y a des femmes aussi, mais disons qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui m'écoutent, en quoi est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce que ça suppose? Mais quel mépris envers les gens que de commenter dans ce sens-là, Et le pas plus loin, c'est dire, mais en fait, vous vous demandez pourquoi Donald Trump a été élu. Ben peut-être que c'est parce que les gens vous écoutent et qu'ils se sentent heurtés. Ça, quand ils entendent le mépris.
C'est ton interprétation, c'est lui qui dit ça?
C'est lui qui dit ça.
C'est lui qui dit ça, ouais, ouais.
Cette semaine, ouais, en fait, ouais. C'est un... Puis, oui.
Oui, oui, tout à fait, mais... Puis, parce que, bon, on peut en parler. Hein. Après l'entrevue, donc, l'entrevue est difficile sur YouTube, les gens réagissent beaucoup, puis ça a l'air de ne pas être lié à ce que tu dis, mais ça l'est. Donc, les gens réagissent beaucoup, des camps se forment, donc tu as des gens qui sont pro-Jordan Peterson, puis qui trouvent qu'il a fait un bon travail, puis qu'il a déstabilisé... C'est dur à savoir ce qui s'est passé pour vrai, mais une interprétation, c'est que les gens de Channel 4, Cathy Newman, se sont rendus compte qu'elle a mal paru, que d'une façon générale, les gens trouvent qu'elle a été comme très agressive, ou peut-être pas agressive, mais qu'elle n'a pas fait une bonne entrevue.
Ben non, parce qu'elle lui supposait, le voit du début à la fin, lui supposait, c'est-à-dire essayer de créer un homme de paille.
Oui, puis
caricaturer des choses.
Puis toute l'entrevue, c'est ça. Elle dit, vous dites ceci, puis elle dit, non, j'ai pas dit ça, c'est pas ça que j'ai dit du tout.
C'est ça.
Puis elle reprend. Mais, fait que là, elle s'en sort un peu en disant, pour en fait changer le focus de sa mauvaise entrevue, en disant, ben, depuis l'entrevue, j'ai reçu plein de menaces, des trolls de Jordan Peterson qui sont après moi. Il a même fallu qu'on fasse appel à la sécurité. C'est hors contrôle. Il y a plein de jeunes hommes là, qui sont dans sa gang, qui disent des trucs vraiment haineux envers moi. C'est épouvantable. Alors là, le focus change de « j'ai été déstabilisé, j'ai fait une mauvaise entrevue » à « ils sont donc bien méchants, ceux qui suivent Jordan Peterson ».
Oui, CQFD, on s'en doutait. Ouais. Ça faisait partie de l'entrevue. C'est donc bien bizarre. C'est qui ces hommes-là qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous leur dites donc?
Puis là, Jordan Peterson raconte, puis il a hésité. Hein, il dit qu'il a hésité parce qu'à un moment donné, il était comme devant un dilemme de dire « Est-ce que j'écris sur Twitter aux gens de ne pas faire ça? » Parce que il dit, tu sais, c'est un débat de mots. Il n'y a pas pour raison d'avoir de la haine de part et d'autre ou des menaces. Là, on s'est parlé, puis on n'était pas d'accord, on était d'accord. Mais tu sais, c'est vrai que c'était chargé, mais en même temps, c'était pas... C'était une mauvaise entrevue au sens qu'elle essayait de le mettre en boîte d'une façon maladroite, puis elle n'est pas parvenue, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de l'haïr ou de l'haïr lui.
Non, ouais,
c'est une entrevue, c'est ce que c'est.
Oui, c'est ça.
Mais là, à partir du moment où il écrit un message sur Twitter en disant aux gens, ben arrêtez, s'il y a de la haine, arrêtez, s'il y a des menaces, arrêtez, là, il raconte que ce qui est capté par les journaux, c'est ce message-là qu'il fait, et comme il l'a fait, c'est la preuve que ces messages-là existent.
C'est ça.
Ce que lui, il ne savait pas nécessairement, on lui avait dit, il y a plein de menaces, mais il n'a pas lu les menaces qu'il n'a pas lues. Puis il se doute bien que c'est exagéré, puis que c'est un moyen de s'en sortir.
Oui.
Mais là, du fait qu'il dit aux gens d'arrêter...
C'est la preuve.
C'est la preuve que ça a existé. Ça valide tout. Et là, il perd le contrôle. Puis il passe pour quelqu'un qui a une armée de jeunes soldats hargneux, haineux, frustrés, qui attaquent tout ce qui bouge, aussitôt qu'on conteste Jordan Peterson.
C'est ça.
C'est quand même quelque chose, hein? Comment ça, en l'espace de 24 heures, tu peux perdre le contrôle complètement?
Mais ça, c'est tellement fascinant ce qui se passe en ce moment, puis comment on est essentiellement des analphabètes par rapport à tous les phénomènes qui ont cours à partir des réseaux sociaux, puis qui se répercutent dans la société. On est des analphabètes au sens où des gens comme Cathy Newman... C'est des gens que nous, là, de notre génération, là, on a vu tous les jours à la télé. C'est des gens qui nous présentent des nouvelles, des gens qui nous racontent l'actualité, des gens qui invitent des gens pour présenter à leur public.
Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui ont des a priori favorables, d'autres non.
Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas de moyens de commenter puis de participer à la conversation.
Ouais.
On était juste des spectateurs.
Ouais.
Puis si on voulait essayer de réagir, ben on écrivait un papier, puis on espérait que peut-être ça se retrouve dans le journal. Ouais. Mais là, on n'aurait pas la réponse, tu sais?
Oui, écrire une lettre à Radcan avec un thème, là, puis...
C'est ça.
Ça n'a jamais...
Exactement.
Ça n'a pas le même impact qu'écrire un tweet, hashtag Cathy Newman, qui te répond au bout de deux minutes.
C'est ça. Et là, c'est la démocratie. Vous voulez de la démocratie, voilà de la démocratie. Là, tout le monde peut non seulement réagir live, mais en plus, prendre des extraits de l'entrevue, les intégrer à leur propre vidéo, créer des propres vidéos, leur propre vidéo de commentaires qui inclut le vidéo original.
Ouais.
Et là, on se rend compte que du monde, il y en a beaucoup.
Ouais.
Ça fait que quand tu reçois quelqu'un qui intéresse des gens à ton émission et qui intéresse des gens autour d'une controverse et que tu essaies de le mettre en boîte et que là, tout d'un coup, il y a une déferlante de commentaires négatifs à ton endroit parce que ton entrevue n'était pas bonne, tu n'as jamais pris le temps d'essayer de comprendre le point de vue de ton invité ni essayer de mettre en valeur, c'est comme la profondeur de sa réflexion. Tu n'étais pas capable de sortir de ton petit cadre restreint qui te fait voir tout en termes de polarisation. Quand tu reçois une déferlante de commentaires, toi, tu as l'impression que c'est des discours haineux qui prouvent tes a priori.
C'est exact.
Mais c'est une forme d'analphabétisme.
Par rapport à ce phénomène-là.
Oui, parce que quand on se donne la peine de regarder c'est quoi les commentaires, on les voit, là, c'est pas... tu sais, elle peut nous dire, ah oui, mais c'est dans mes messages privés que vous avez jamais vus.
Ouais.
Mais quand tu regardes, on les voit, les commentaires.
Ouais.
De la haine puis des menaces de mort, c'est marginal. Et non seulement c'est marginal, mais c'est rattrapé par d'autres internautes, d'un côté. Puis de l'autre côté... c'est que tu vas voir les réactions sur le truc de Peterson, puis il reçoit autant d'agressivité, si c'est pas plus.
Ouais.
Et cet homme-là, la violence qui a été exercée à son endroit à partir du moment où il est devenu une personnalité proéminente, elle est hallucinante. Fait que,
surtout hein, que, puis bon, on peut le croire ou non, mais moi, j'ai tendance à penser à donner du mérite à ce qu'il dit, parce que souvent, on lui reproche, et c'est ce qu'elle fait, entre autres, qui est un provocateur. C'est quelqu'un qui veut provoquer. Tandis qu'on peut vraiment argumenter qu'il y a des idées, qu'il a réfléchi à des choses, puis qu'il y a des idées qui sont assez bien fondées, qui se tiennent, avec lesquelles on peut être d'accord ou non, mais c'est pas évident, vraiment pas évident qu'il dit des choses avec un sourire en coin, en sachant que vraiment il s'est saucé puis il tourne les coins ronds pour provoquer des réactions.
Non. En fait,
t'sais,
non, pas du tout.
Il n'y a pas ça, vraiment.
En fait, non, pas du tout. Il va dire, je suis un provocateur dans la mesure où ce que j'ai à dire est provoquant, mais je sors pas comme ça dans le but de provoquer.
Non. Tu sais, c'est pas... parce qu'il y en a, tu sais, des fois, t'écoutes... on pourrait faire un podcast là-dessus un moment donné, mais t'as des humoristes, entre autres, dont l'humour est fondé sur des transgressions puis de la provocation, puis ça crée des malaises, puis ça crée des rires, puis c'est leur métier de provoquer. Lui, c'est pas vraiment ça, mais il faudrait parler quand même, parce que c'est important, puis l'autre fois, on n'a pas parlé, puis c'est quand même aussi l'essentiel, la discorde entre Cathy Newman puis lui, c'est l'idée de ce qu'il dit par rapport aux relations hommes-femmes, puis du fait que son message plaît aux hommes, selon elle, puis selon toute vraisemblance. Puis c'est sa réputation aussi, tu sais, qui dit à des hommes, mais à tout le monde, mais donc à des hommes, de... Tu sais, c'est le mythe du héros, là, d'aller dans des endroits sombres en soi, de l'approfondir, de les explorer, ces endroits-là, de revenir plus fort avec une vérité, de la partager... et de se donner dans la vie des buts nobles, d'être responsable, puis d'avoir un impact, puis d'être le mieux de ce qu'on peut être.
C'est ça qui donne du sens à une vie.
Oui. Tu sais, il y a de ça dans son message.
Une question de sens, de donner du sens à une existence.
Fait que, tu sais, t'écoutes ça, puis ça se tient, mais ce qui a été repris parfois comme une espèce d'apologie, de l'affirmation masculine... Et donc d'un monde patriarcal, hein, ça se dit, puis contre l'émancipation féminine, en fait. C'est un peu de là qu'elle parlait, je pense, qu'elle qui s'inscrit comme féministe, puis que lui qui arrive en disant « il faudrait que les hommes ils reprennent le contrôle ». C'est comme ça qu'elle entend ce qu'il dit, je crois.
Bien, il y a tout un passage où tu la vois vraiment s'énerver. C'est un passage qui précède ce passage-là où elle dit, où il lui dit « gotcha ». Il y a un passage avant où elle s'énerve. Tu la vois s'emporter et l'empêcher de parler. Lui qui dit, mais non, c'est pas ça que je dis du tout.
So the simple question is, do you believe in equal pay?
Well, I made the argument there. It's like it depends.
So you don't believe in equal pay?
No, I'm not saying that at all.
Because a lot of people listening to you will just say, I mean, are we going back to the dark
ages? That's because they're actually not listening.
I'm listening very carefully, and I'm hearing you basically saying women need to just accept they're never going to make it on equal terms. Outcomes is what how you defined it.
No, I didn't.
If I was a young woman watching that, I would go, well, I might as well just go and play with my Cindy dolls and give up trying at school because I'm not going to get the top job I want because there's someone sitting there saying it's not possible and it's not desirable, it's going to make you miserable.
Desirable. That's what I said. It's a bad social goal. I didn't say that women shouldn't be striving for the top or anything like that because I don't believe that for a second.
Striving for the top, but you're going to put all those hurdles in their way, as has been in their way for centuries, and that's fine. You're saying fine.
No, I think I really
think the patriarchal system is just fine.
That's silly. I do. I think that's silly. I really do. I mean, look at your situation. You're hardly unsuccessful.
Yeah, and I have battled quite hard to get where I've got to.
Exactly. Good.
So that's okay. Battling is good. This is all about the fight.
It's inevitable.
But you talk about men fighting. I mean, let me just put another thing to you.
Why would you have to battle for a high-quality position?
Bon, premièrement, elle dit à plusieurs reprises, beaucoup de femmes à la BBC se plaignent d'être payées moins que des hommes pour le même poste.
Oui.
Et là, elle enchaîne sur d'autres choses qui ressemblent. Parce que ça aussi, c'est un contentieux.
Hein, ouais.
Les femmes sont-elles réellement payées moins cher que les hommes pour le même travail? On le répète comme une évidence, sans plus jamais retourner aux faits puis aux statistiques. Puis c'est comme si on n'a plus besoin de vérifier quel progrès on fait. On a dit ça, puis on le répète. Lui essaie d'apporter des nuances, puis tu la vois, elle, qui s'emporte. Et à force de s'emporter, tu finis par avoir l'impression qu'elle se sent, elle, personnellement attaquée et a l'impression que lui parle de promeut l'idée que les femmes devraient juste commencer à s'habituer à leur rôle, qu'il y a des différences biologiques qui expliquent qu'elles soient moins payées que les hommes pour le même travail, ce qui n'est pas du tout ce qu'il dit.
Ce n'est pas son propos.
Mais tu vois que son expérience à elle et son point de vue à elle l'enflamme et l'amène à interpréter ça, qui est extrêmement choquant pour elle. Elle insiste, elle revient à la charge, c'est...
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un point de confrontation entre les deux. Mais en fait, elle veut lui faire avouer que les femmes à la BBC, ça a été montré, sont moins payées pour le même travail. Et lui, sa réponse, en fait, c'est peut-être, mais ça n'exclut pas d'autres facteurs explicatifs, c'est multifactoriel, et il faudrait regarder donc d'autres facteurs. Et ce à quoi... Elle ne veut pas vraiment entendre parler. C'est-à-dire, elle voudrait un aveu pour commencer. Là.
Oui, c'est ça.
Avouez-le. Elle dit, oui, mais il y a peut-être d'autres facteurs. Pas d'autres facteurs, là.
Oui.
Est-ce que vous niez ce fait?
Oui.
Puis bon, ça...
Et puis, de fil en aiguille, elle finit par dire, oui, mais... Bon, ben donc, finalement, il y a un gars qui nous dit qu'on devrait juste retourner jouer avec nos poupées.
C'est ça.
Mais, tu sais, qu'elle part de ce point-là, et ça, ça dérive à... Les femmes devraient simplement retourner chez elles, jouer avec leurs poupées. Pourquoi est-ce qu'elle impute cette pensée-là à ce monsieur-là? Est-ce que c'est son look austère?
Mais c'est triste, par contre, parce qu'il y a des sujets comme ça. Tu sais, l'égalité homme-femme, l'immigration, l'avortement. Puis je pense que c'est très Jordan Peterson de dire ça, je pense. Qui sont complexes.
Oui.
Puis que c'est difficile... d'explorer en toute quiétude, parce que c'est très facile de te faire vite mettre dans un coin d'aha.
Oui.
Quand
oui.
en fait, je pense à son crédit, là, lui, il essaie de dire, écoutez, c'est une question complexe, les changements climatiques, la pauvreté dans le monde, les inégalités entre différentes personnes. De se montrer vertueux en disant, je suis contre, je suis pour, ça ne va pas au centre de la problématique et des potentielles façons de résoudre l'affaire.
C'est ça. Fait que c'est une drôle de bibitte qui débarque dans les médias.
Ben oui.
Ils ne savent pas quoi faire avec ça. C'est-à-dire qu'on essaie de faire revirer la conversation à gauche.
Donc vous êtes de droite. On essaie de dire ça aussi.
C'est ça. Mais on essaie de tourner de ce côté-là, puis whoop, ils s'échappent de l'autre côté. On essaie de le récupérer de l'autre côté. Whoop, puis il va concéder des points qu'il trouve raisonnables.
Ben oui.
C'est comme une drôle de bibitte dans un contexte où thèse, antithèse, synthèse.
Oui, oui.
Toi, t'es à gauche ou t'es à droite. Ou, donc, tu penses... So what you're saying oui. is...
Donc, alors, donc, vous êtes pro.
Donc, êtes-vous pour ou contre?
Oui, c'est ça. Et parfois, sa réponse, c'est, ben, historiquement... Force est d'admettre que d'une façon beaucoup plus large de voir la problématique, ce qu'il préfère de manière pour ou contre.
C'est ça. C'est ça. Donc, si tu me le dis pas, je vais te le faire dire. Donc,
ouais.
ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes pour. Non, c'est pas ça que j'ai dit.
Oui, c'est ça.
Ah ben là, donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes contre.
Fait qu'un de ces messages par rapport aux relations hommes-femmes dans cette entrevue-là, c'est pas très élaboré, mais c'est présent. Tu sais, il dit... Il y a trop d'hommes, je paraphrase là, mais il y a trop d'hommes qui sont tout seuls, anxieux dans leur coin, à pas se prendre en charge, là, à pas set themselves straight.
Pas trop d'hommes, il y a trop de personnes. Son message n'était pas fabriqué pour les hommes. Il y a trop de personnes, non?
Oui, oui. Mais sauf qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'hommes qui embarquent, puis on lui pose des questions par rapport aux hommes, il peut répondre dans ce créneau-là. Mais t'as raison. Initialement, c'était pas un message qui était destiné aux hommes, aux femmes, aux jeunes. C'était d'une façon générale, là, effectivement. Mais bon, quand elle lui pose des questions sur les hommes, il répond par contre.
Oui, c'est vrai.
T'sais, il dit pas « Ah, non, non, non ». Il est capable de dire « Oui, oui, il y a trop d'hommes comme ça ». Et c'est là que c'est un terrain glissant, puis qu'elle est interpellée, parce que puis il dit « Ben, les femmes peuvent vouloir de ce genre d'hommes-là à court terme, momentanément, parce qu'ils sont faciles à dominer, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, mais tu ne bâtis pas une relation solide dans ce genre de dynamique-là. Et donc, une femme a besoin d'un homme qui se tient debout, puis set himself straight, puis c'est son mythe du héros, puis tout ça.
Homme compétent aussi.
Un homme compétent. Qui a du pouvoir, au sens non pas de dominer, mais... C'est exactement, pouvoir au sens de compétent, dans ce qu'il est, dans ses forces. Et c'est là qu'elle lui répond, ben, qu'est-ce que vous en savez de ce que les femmes veulent? Et c'est là qu'il répond, well, I'm a clinical psychologist.
Oui, oui. Et c'est là que, personnellement, dans mon petit univers à moi, j'ai fait, oh mon Dieu, enfin! Juste parce que nous, les psychologues cliniciens, on est assujettis, on a un devoir de réserve. Et ce devoir de réserve-là, j'ai l'impression, au fil du temps, est devenu une sorte d'obligation au silence. Comme dans nos pratiques, on voit des choses, on entend des choses qui ont une profondeur qu'on ne retrouve pas dans le monde... politico-médiatique, là, tu sais.
Ouais.
Et dans le monde binaire qu'on essaie de nous raconter. Des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sensibles.
Que pour ou contre.
C'est ça. Mais comme on est invité très fortement à... d'abord, on a un devoir de confidentialité, mais aussi à garder une réserve parce que on est réputé représenter notre métier, l'ensemble des psychologues, on finit par être frileux à prendre la parole.
Ouais.
Et on finit par plus savoir ce qu'on a le droit de dire et à quel titre. Quand on voit des personnes un à la fois, on n'a pas la compétence du chercheur, par exemple, qui lui regarde des masses.
Mais...
Sauf qu'à force de voir une personne, on finit par, tu sais, comme trouver des schémas dont on n'ose pas parler. Contrairement, tu sais, c'était pas le cas il y a pas si longtemps, dans les années 70, même 60, 50, le clinicien. Et donc, c'est là que moi, j'entends Peterson dire, mais c'est que je suis un psychologue clinicien, et que je me dis, ah, ben là... Ça se peut, ça, de... comme argument?
C'est intéressant que tu notes, par contre, parce que c'est vrai que des fois, on pense que... À cause du moment où on devient un professionnel, où on rentre, entre guillemets, dans le monde, des fois, on est porté à penser que c'est comme ça. Mais ça fait pas si longtemps, il y avait des présentations de malades.
Oui.
Devant public.
Oui.
Tu sais, ça fait pas 150 ans de ça, non. Là. On a connu ça toutes les deux à Louis H, là.
Oui.
ça fait quoi, 25 ans? Hein?
Oui.
Des psychologues, des psychiatres qui se présentaient dans un amphithéâtre avec une vraie de vraie malade qui oui. faisait l'entrevue en direct devant le public et des étudiants qui prenaient des notes. Puis,
oui.
Puis qui pouvaient donc rendre compte de leur savoir-faire et de l'information qu'ils tiraient de ces entrevues cliniques-là.
Tu sais, il y avait des problèmes avec ça aussi, là. C'est comme si on est passé d'un extrême à l'autre. Il y a des problèmes avec
oui,
ça parce que tu rends compte de pas grand-chose quand tu mets une personne devant un public. Je veux dire, ce que tu as, c'est la représentation d'une personne, puis ta compétence clinique à toi, c'est pas ton travail clinique réel, c'est la représentation du travail clinique devant un public, tu sais. Ouais. Il y avait des problèmes avec ça aussi.
Oui, oui, tout à fait. Puis de l'ego de certaines personnes qui présentaient aussi, là, qui était écrasant pour le malade. Là.
Oui.
Le grand docteur ou... Le grand psychiatre qui vient de France, puis qui débarque, puis qui fait une présentation devant le public, c'est ça. Je veux dire.
Porte le titre de grand patron.
Grand patron. Mais pour en revenir à Jordan Peterson, pour faire l'avocat du diable par rapport à ce qu'il dit de psychologue clinicien, moi j'ai l'impression des fois qu'il utilise certains arguments d'autorité par rapport à son expérience. Donc, son expérience, quand il décrit son expérience de psychologue clinique, des fois, j'ai l'impression qu'il fait un peu d'hyperbole par rapport au nombre de milliers d'heures.
Oui, oui.
Tu sais, des fois, attends une minute, là.
20 heures semaine quand t'es prof à temps plein, ouais. Puis t'es chercheur.
Ou il y a ça, ben c'est un détail, mais tu sais, aussi l'idée de dire, tu sais, des fois, j'ai... De préfacer un argument en disant « j'ai extrêmement réfléchi ». Longtemps et profondément sur ce thème.
Oui.
Tu sais, ça appuie ce que tu dis, mais en même temps...
C'est évident à entendre.
Oui.
Que surtout avec son air sérieux.
Ben oui, avec son air macabre, on veut dire, OK. Mais en même temps, OK, mais...
OK,
c'est un drôle d'argument à faire. Oui. C'est comme ça. Tu veux me parler de Jordan Peterson? Moi, j'ai passé de longues heures à réfléchir sur son...
Moi, je le sais.
Là, tu te dis, OK, ouais, moi, j'ai peut-être pas passé de longues semaines. J'ai lu 2-3 tweets. Fait qu'il y a parfois, il y a ces arguments-là, des pétitions de principe, des arguments d'autorité, qui appuient oui. ces choses sur une recherche. La recherche démontre sans l'ombre d'un doute. Là,
oui.
Quelle recherche?
Oui.
Mais bon.
Mais
cela dit, ça lui permet aussi, des fois, ce qui est le fun, ou c'est pas le bon terme, là, mais c'est ce qui est pertinent de dire quelque chose.
C'est que c'est de bonne guerre, ben c'est ouais. ça.
Oui.
C'est ça. Parce que tu l'as, elle lui dit, Cathy Newman, pendant notre vue, mais toi, t'es qui, toi, pour dire ça?
Mm-hmm.
Hein? Ben, c'est...
Oui, c'est de bonne guerre dans ce sens-là. Ben, t'es
ça.
Qui, ben, quand même?
Ben, je suis quelqu'un.
Oui. Oui, puis c'est moi qui le dis, puis voici sur quoi je me fonde.
C'est ça.
Là, à partir de ce moment-là, des fois, c'est un peu saucé, comme on dit, mais c'est de bonne guerre. Mais bon, d'autres choses intéressantes aussi... qui m'ont interpellé à l'écouter puis à leur lire. Entre autres, justement, pour continuer sur ça, à propos de ce qu'on disait, qui vont des fois à contre-courant du discours convenu, puis ce qui est de bon ton de dire. Une des choses qu'il dit par rapport à l'inégalité, c'est que le fait d'avoir un écart important dans la distribution de la richesse, de son point de vue, comme on n'entend pas ça si souvent, c'est que c'est pas le propre du capitalisme. C'est pas relié au capitalisme, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de plus fondamental dans la nature humaine, puis dans la façon dont historiquement les choses se passent. Puis souvent, il donne l'exemple qui est peut-être pas le meilleur, mais il va dire, si tu prends des athlètes professionnels, donc la crème de la crème au basketball, puis tu mets, je sais pas pourquoi ils sont 10 contre 10 ou 5 contre 5, je sais pas trop, mais disons 10 contre 10, souvent... 80% des points vont être marqués par les 2-3 mêmes joueurs
oui.
qui vont s'élever au-dessus d'un calibre qui est déjà élevé.
Oui.
Et son idée, c'est de l'inégalité, l'inéquité au niveau de la distribution de la richesse, c'est un problème plus complexe que ce qui en paraît. Ça va au-delà de juste dire « Ah ben moi, je suis contre, on devrait aider les gens. »
Oui.
Il y a quelque chose de plus à réfléchir. Fait que c'est souvent ce genre de point de vue-là qui amène... qui peut avoir pour l'effet de déstabiliser.
Il y a une féministe américaine, prof de philosophie, qui s'appelle Christina Hoft Sommers, qui a tenu un blog, je ne sais pas si une chaîne YouTube, je ne sais pas si elle la tient encore, mais en tout cas, elle est très active sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube, c'était « The Factual Feminist », Alors, de ce fait-là, elle est devenue une féministe controversée, affublée de tous les mêmes qualificatifs dont on affuble les gens qui ne sont pas d'accord avec une certaine façon de voir les choses, parce qu'elle conteste beaucoup des soi-disant évidences qui sont mises de l'avant pour soutenir des avancées féministes contemporaines.
Ah ouais?
Ouais. C'est le genre de truc qu'elle pourrait mettre de l'avant. Alors, pourquoi je parle d'elle, c'est qu'elle a tweeté quelque chose cette semaine qui était en réaction à une campagne Facebook, une campagne Twitter qui est « in the making » pour le 9 avril, pour protester contre la violence et la haine que reçoivent les femmes journalistes ou les femmes figures publiques sur les réseaux sociaux. On invite les gens à ne pas tweeter pendant toute une journée, à ne pas être sur les réseaux sociaux pendant toute une journée, le 9 avril. Et sa réponse, c'est de dire, ben, j'invite tout le monde à participer à cette journée-là. Les hommes reçoivent plus de haine que les femmes sur les réseaux sociaux. Pour les statistically challenged people, tu sais, on va quand même vous aider, vous soutenir contre la haine sur les réseaux sociaux. C'est juste pour... je raconte tout ça juste pour son expression « statistically challenged ». Ouais. C'est une petite vanne, mais que j'ai vraiment appréciée parce que, en fait, ce dont on parle, puis ce qui est l'enjeu entre Cathy Newman puis Jordan Peterson, puis qui explique en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie, l'explosion de vues et de la popularité d'un prof d'université, en fait. C'est comme... Tu sais, c'est pas la star qu'on imagine, là. C'est pas un musicien, c'est pas un acteur, ouais. C'est un prof d'université qui parle de sens, de créer du sens dans sa vie. Donc, en partie, ce qui explique l'explosion de popularité, c'est qu'il vient mettre des mots, lui, sur un malaise grandissant, j'ai l'impression, qui est lié à une certaine façon de voir le monde qui nous est racontée depuis très longtemps et qui fonctionne sur des a priori qui ne sont pas nécessairement vérifiables dans la réalité. Mmh. Il oppose des faits, et quand il dit « mais en fait, ça a toujours été comme ça, par exemple, où il y a d'autres raisons pour lesquelles les courbes statistiques demeurent les mêmes qu'on soit dans un système capitaliste, dans un système socialiste, dans une dictature X ou Y », les raisons pour lesquelles la distribution se fait de cette façon-là sont pas aussi simples que... Donc, ce qu'on peut présumer qui est la position de Cathy Newman ne sont pas aussi simples que de dire le patriarcat ou la dominance masculine ou le capitalisme sauvage à dominance masculine cause des injustices qu'on doit réparer en créant des mesures,
ouais,
sans avoir besoin d'étudier plus finement...
Quelles sont les causes?
Les causes de ces injustices-là. Ouais. Et c'est là le...
C'est là le clash.
Là. C'est là le clash. C'est quand il va dire... il répète souvent, là... Lui, il s'inspire beaucoup de Carl Jung... Et, entre autres, intégrer l'ombre en soi, c'est la porter et la dépasser. Il y a aussi quelque chose chez Carl Jung, qui est une autre des personnes qui a connu la guerre. Je sais, c'est comme... Il faut le... Je trouve que la guerre, je vais juste le dire encore en passant, excuse-moi, j'ai une petite filière qui vient de souvenir en même temps que je parlais, mais je trouve que la Deuxième Guerre mondiale... On l'a raconté ad nauseam, on en a fait des films ad nauseam, mais on n'a pas encore intégré tout ce qu'on pourrait intégrer, puis on ne tient pas assez compte des effets d'avoir vécu cette guerre-là sur la pensée des philosophes dont on s'inspire, qui sont les philosophes dominants dont on s'inspire, que ce soit Carl Jung, que ce soit Freud, que ce soit Michel Foucault, ou Jacques Derrida, ou peu importe, tous les postmodernes, ouais. Tu sais, l'influence de la guerre sur leur pensée, je trouve que, en tout cas, c'est un des angles morts souvent qu'on a. C'est comme une guerre industrielle, là, qui élimine des gens comme d'une façon industrielle, là. C'est, en tout cas, bon, ça c'est un point qui m'a fait oublier mon point principal. Carl Jung. Mm-hmm. Donc, Carl Jung a théorisé une sorte de possession dont les gens peuvent être assujettis, qui est une possession idéologique qu'il appelle l'animus. Et quand il regarde, Jordan Peterson regarde Cathy Newman, il voit qu'elle est animus possessed, c'est-à-dire possédée par une idéologie.
Oui, tout à fait, mais puis en fait, il va souvent dire ça, qu'un des objectifs à un niveau large là, de ce qu'il dit, de ce qu'il raconte, de ses livres, c'est essayer d'amener les gens à se recentrer sur qui ils sont, dont entre autres leur part d'ombre, là, ce que Jung dit leur shadow self.
Et à toujours dire la vérité, parce que le mensonge amène à l'enfer.
Exact. Donc c'est ça, tout faire ça, ce travail-là, dans l'idée de s'immuniser contre l'idéologie ambiante.
C'est ça.
Pourtant, j'hésitais à le retrouver, mais c'est l'essentiel de son propos, c'est d'essayer de faire en sorte que... Là, je le paraphrase, je ne suis pas sûr qu'il dit ça comme ça, fait que c'est peut-être moi qui projette mes propres affaires, mais de trouver sa propre vérité, de l'intégrer dans un sentiment de responsabilité, de noblesse, de ce que tu peux faire de bon pour la société, de positif, en étant compétent, en ayant du contrôle, et de t'immuniser contre plein d'idéologies ambiantes qui, des fois, parlent pour toi ou parlent par toi ou qui te fait parler, en fait.
Fait de toi un objet.
Oui, exact.
Mais c'est pourquoi ça peut avoir des résonances pour des cliniciens comme nous qui avons baigné dans l'esprit psychanalytique pendant longtemps, c'est que c'est exactement le sens du travail clinique.
Oui, ben oui.
Quand on est psychanalyste, ce dont il parle, quand lui parle de responsabilité,
ouais.
Lacan parle d'éthique.
Oui, tout à fait.
Freud va parler de sublimation. C'est-à-dire, tu prends ce qui te caractérise, tes fêlures, le fantasme là, d'un psychanalyste ou le fantasme du mieux-être pour un psychanalyste, c'est pas à la fin du processus, tes fêlures vont être réparées.
Ou je t'ai inspiré.
Ou je t'ai inspiré, c'est ça.
Je vais juste ça parce que c'est un aparté, mais j'ai écouté ça cette semaine, quelqu'un qui disait, tu sais, il faut inspirer nos patients, puis les inspirer à faire comme nous, puis...
Oui, c'est ça.
Ce qui serait le contraire d'un esprit psychanalytique. Ben, excuse-moi, je t'ai interrompu, là, mais...
Non, mais c'est ça qui irait dans le sens de dire, ben, tes fêlures font partie de toi, ton travail à toi, on te le souhaite productif, c'est d'arriver à en faire quelque chose.
C'est ça, c'est de faire avec.
À le sublimer.
Et pour en arriver là, donc, pour en revenir à l'idéologie, puis au discours courant... c'est d'être capable aussi de retrouver ses propres mots, en fait. Parce que des fois, on le voit, hein, il y a des mots qui deviennent des mots balises un peu, puis justement, j'avais l'exemple du mot, je lisais ça, je pense avant hier, c'est bien entendu maintenant de partager des choses sur les réseaux sociaux. Tu partages un lien, je partage un truc qui me met en valeur, quand en fait, tu sais, au départ, l'idée d'un mot du partage, c'est d'avoir une pomme, puis de vouloir la manger, puis d'en couper la moitié, puis d'en donner à quelqu'un. Tu sais, de donner quelque chose que tu as besoin.
Il y a de l'altérité dans le partage.
Ben oui. Cliquer, puis partager un texte que tu as écrit pour recevoir des likes, je veux dire, c'est pas...
Le partager comme si je l'avais déjà possédé, en plus.
Oui.
Comme si ça avait été à moi. Le fait d'avoir lu tel article, d'avoir vu telle vidéo, ça fait de moi son propriétaire,
ouais.
Si je peux le partager.
Oui. Parce que, c'est pas grave, parce que ça a l'air un peu... si mes enfants m'entendaient, ils trouvaient que j'ai vraiment l'air vieux, là, mais... j'ai rien contre les réseaux sociaux, mais... Tu sais, c'est vrai que par rapport au mot « partage » et « amour », tu sais, d'avoir quelqu'un qui dit « je partage ce lien parce qu'ils ont besoin d'amour, likez-le », tu sais, ça vient quand même dénaturer ce qui étaient ces mots-là, parce que c'est liker quelque chose, puis partager un lien, c'est pas très compromettant.
Puis... C'est ça, mais c'est pas seulement une affaire de réseaux sociaux, c'est une affaire qu'on pouvait constater il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est que c'est une chose de prendre une posture dans l'espace public, aussi vertueuse soit-elle. C'est une chose de signer une pétition. C'est une chose d'écrire des textes dans les journaux ou de professer à l'université la justice sociale, etc., ou d'encourager des élèves à faire la grève. C'est une chose de faire la grève ou de manifester. Tout ça, c'est dans le langage et dans le rapport à l'autorité et dans le rapport au public. C'est autre chose d'agir dans sa propre vie d'une manière qui soutient, qui aide son prochain,
ouais,
ou qui améliore le sort de sa communauté réellement.
Oui, tout à fait.
Puis il y a un clash souvent, c'est-à-dire que souvent on entend des discours et des postures, par exemple Cathy Newman qui répète à satiété, c'est vraiment injuste que les femmes ne soient pas payées le même salaire pour le même travail et qui est pas du tout à l'écoute des contre-arguments. Elle revient à la charge parce que c'est une vérité. Pour elle, c'est une lapalissade.
Ouais.
Ça va de soi. On sait que les femmes sont payées moins cher que les hommes pour le même travail. Et donc, quand tu as quelqu'un qui lui dit, mais en fait...
C'est multifactoriel.
Et puis, sur quoi est-ce que vous l'avez évalué? Les femmes sont majoritaires et vraiment, elles vont très bien en médecine.
Mm-hmm.
La profession médicale, c'est une profession prestigieuse encore et bien rémunérée. Les femmes sont là en majorité. Dans beaucoup de professions, c'est le cas. Hein? Alors, ces statistiques-là, d'abord, il faudrait qu'on voit d'où est-ce qu'elles proviennent, si elles sont fondées, ce que la factual féministe Christina Summers conteste, parce que elle s'informe des travaux.
Oui, puis c'est une de ses...
Non, vas-y.
C'est une de ses caractéristiques aussi. Hein? On parlait tantôt du sérieux parfois qui amène à ses réflexions, mais c'est aussi l'utilisation de la statistique, qui n'est pas si courante non plus.
C'est la compréhension de la statistique par ceux qui l'utilisent n'est pas courante non plus.
Exact. Ouais, en passant, hein, j'ai lu cette semaine une boutade que... Il paraît que c'est vrai, par contre, que... Il y a un restaurant qui n'est pas Harvey's, qui est IW, qui dans les années 90, je crois, avait décidé de compétitionner le quart de livre, le quarter pounder de McDonald's, en sortant un produit qui était le tiers de livre pour le même prix. Avec l'idée que les gens pourraient dire, ah, ben quand même, tu sais, tiers de livre, quart de livre, je n'ai pour le même prix. Mais là, comme 4 est plus grand que 3, la majorité du monde ont dit « Ben là, moi, j'aime mieux avoir mon quart de livre, c'est pas un bon deal, ça. »
C'est ça.
Fait que la personne disait « Quand je vois ça, puis il paraît que c'est arrivé pour vrai que la majorité du monde a refusé le tiers de livre au même prix que le quart de livre en disant « J'aime mieux en avoir plus, j'aime mieux mon quart de livre.
Mm-hmm. »
La personne a dit, tu sais, souvent, quand je vois des stats sur Twitter ou du monde qui s'écoute pas, je perds pas mon temps. Hein.
C'est ça. C'est bon, hein?
Mais c'est une boutade, mais il y a ça dans l'utilisation que fait Jordan Peterson, des statistiques, des multiples facteurs, de la différence entre une corrélation et une cause. Tu sais, des affaires qui ne sont pas géniales en soi, là.
Non, c'est ça.
La base, là.
Oui.
Mais tu sais, d'en arriver en disant, ouais, ben là, ce que vous dites là, c'est peut-être qu'il y a un lien de corrélation, je l'admets, mais pour comprendre la cause, il faut regarder tous les facteurs. Tu sais, puis d'être très, très à cheval sur ces arguments-là.
Mais c'est ça qui est déroutant, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement chercheur ou quelqu'un qui n'a pas nécessairement été formé ou qui n'a pas nécessairement été beaucoup exposé à la logique du calcul statistique puis de la recherche dans les domaines qui se fondent sur la statistique, c'est à savoir la psychologie, la sociologie en particulier, c'est que tu as plusieurs étapes avant d'arriver à une conclusion. C'est-à-dire la première étape, la première chose que tu peux remettre en question, c'est là que, tu sais, c'est comment tu as découpé tes groupes. C'est vraiment important. C'est vraiment important mais, et fondamental,
mm-hmm.
mais c'est souvent perdu, même des fois même souvent par les chercheurs eux-mêmes.
Ouais, ouais.
Comment tu as décidé, c'est une décision de découper tes groupes. Fait que, OK, comment vous les avez découpés, les groupes, pour évaluer, mesurer les écarts de salaire?
Ouais.
Alors, est-ce que c'est toutes les femmes ou est-ce que c'est les femmes dans un certain groupe d'âge? Est-ce que c'est les femmes d'une certaine génération? Comment vous avez évalué l'équivalence du travail? Est-ce que c'est pour le même poste au même endroit? Est-ce que c'est, tu sais, des équivalences des tâches qui se ressemblent? Tu sais, c'est pas qu'ils contestent, c'est qu'ils soulèvent la question. Fait que ça, c'est la première étape. Après ça, quand tu le rentres dans ton système d'analyse statistique, puis que tu constates, disons, à partir des groupes que tu as décidé, que tu as choisi, c'est un choix. Tu sais, quand tu arrives à 68% d'eux pensent que ça fait longtemps que ça s'est passé, que tu as choisi, fait que tu as oublié qu'il y a une dimension subjective au départ, une décision de découper le monde dans ces catégories-là plutôt que d'autres. Tu sais, bon, mais une fois que tu arrives à ta statistique, je sais que je t'apprends rien, mais j'ai comme souvent besoin de le répéter parce que c'est tellement important, puis pourtant, c'est tellement pas mis de l'avant comme... Et puis c'est de là qu'il parle, lui, quand il s'adresse aux journalistes. Les journalistes lui disent « 30%, peut-être plus de... »
Oui, non, oui, mais... tout à fait, mais puis c'est dans ce sens-là, il est à cheval sur les principes, mais avec raison, un peu comme, tu sais, encore là, c'est une anecdote, mais pour en venir à quelque chose de très quotidien, là, quand François Legault, par exemple, va dire « ben on a mis le curfew... » Comment on dit ça en français?
«
Le couvre-feu, telle date, puis les semaines suivantes... » ça a l'air d'aller mieux, donc le couvre-feu fonctionne. Il y a des trucs qu'un chercheur dirait « Non, mais tu peux pas dire ça. »
Comment tu vas dire ça?
De la même façon que tu peux pas dire à chaque 15 avril, je mets un ananas devant ma porte, puis à partir du mois de mai, il fait plus beau, donc l'ananas cause le printemps. T'sais. Je veux dire...
Ben, j'ai quelqu'un récemment qui me dit « Mais en fait, moi, je regarde tout ça en tant que scientifique, ça commence à m'irriter beaucoup. » Exactement pour ça. Donc, ça va bien. On a mis le couvre-feu, ça va mieux. Donc, on assouplit le couvre-feu et on rouvre les écoles. Les enfants retournent à temps plein à l'école. On rouvre les gyms. Plein d'autres mesures.
Ouais.
Ça, c'est comme des cadeaux. Enfin, vous avez beaucoup souffert, tout le monde. On rouvre tout ça. Puis lui, il regarde ça puis il dit, ben, comment tu vas savoir... quand il va y avoir une autre vague ou que si les cas remontent, c'est quoi le facteur qui a causé ton problème?
Oui, mais
tu t'organises pour ne pas pouvoir le savoir?
Oui, puis ce qui veut pas dire que tu peux pas faire d'hypothèse. C'est quand même dire qu'on fait l'hypothèse que telle mesure va avoir un effet positif, puis on peut pas savoir d'avance que c'est vrai, mais on pense, mais là, c'est correct, tu sais, tu peux faire des hypothèses, puis, mais puis vérifier.
Tu veux te donner des moyens pour pouvoir le vérifier?
Oui, c'est ça. Mais tu sais, d'avoir des hypothèses ou des interrogations ou d'avoir des hypothèses qui s'avèrent fausses et de les corriger, c'est tout ça, c'est la vie. C'est l'idée parfois, par contre, de dire rapidement, donc, c'était une bonne chose à faire. Tu sais, c'est là que des fois, un scientifique soit à cheval sur les principes statistiques dirait, on n'a aucune idée,
affirme des choses. Puis aussi, après, quand tu as la courbe, tu sais, c'est ça, dans les différences hommes-femmes, des différences de revenus, là, tu vas avoir une courbe. Tu sais, tu as la façon dont tu catégorises des choses, puis c'est exactement ça. Tu as la courbe, comment tu l'interprètes, ta courbe?
Oui.
Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, donc par conséquent, c'est qu'il y a des injustices. C'est très court.
Oui.
Tu peux pas utiliser les statistiques comme ça.
Mais tu sais, Non, vas-y.
Parce que dans l'univers statistique, c'est faux. Ce que tu affirmes est faux. Oui? Tu n'as pas... étudier l'impact de toutes les variables en cause.
Oui, c'est ça.
Tu t'es arrêté à une avec ton idée, avec ton pré-savoir.
Oui.
Et ton interprétation, elle ne peut pas tenir, en statistiquement parlant.
C'est ça. Oui, puis, tu sais, tantôt, je parlais du discours courant, puis des mots comme clinicien, tu sais, dont on veut que les gens... pas nécessairement s'éloigner, mais plus avoir du jeu pour trouver leur propre voie, puis pas être enfermé, en fait, dans des mots balises qui sont dits. Puis c'est le même principe pour des fois des sujets qui sont complexes, ou par souci de simplicité, puis de faire image, puis de créer, tu sais, de la controverse ou de créer quelque chose qui accroche, on est rapide à avoir deux positions pour ou contre. Mm-hmm. Quand en fait, des fois, c'est ni pour ni contre, la question est mal posée, c'est pas tellement ça le problème. Mm-hmm. Mais qu'on est comme pris à dire, mais t'es pour ou contre? Puis ça arrive souvent. Puis il y a comme une espèce de glissement des fois où les gens discutent, puis sont pris dans un carcan qui en fait élude la question fondamentale qui lui souvent va ramener.
C'est ça.
Historiquement, parce que c'est une autre de ses caractéristiques, c'est non seulement un truc de stats, de courbe, puis de corrélation, mais c'est de dire, c'est un argument aussi qu'il porte dans l'entrevue avec Cathy Newman, il dit quand on regarde l'histoire du monde, ce que vous dites, c'est faux.
Oui.
Ça aussi, ça donne portée.
Parce que l'histoire du monde, c'est-à-dire, là, toi, sûrement, lui, comme psychologue, disons, qui se déclare évolutionniste, lui, l'histoire du monde, ça remonte à plusieurs, quoi, milliards d'années.
Oui.
D'avant l'époque des plantes.
Mettre la pression, ton argument pour ou contre Trump. Pardon?
Les femmes ont toujours été opprimées. Toi, t'as comme une représentation de 1920, puis les suffragettes.
Puis des mythes aussi, des mythes oui. fondamentaux hein,
oui.
qui transcendent l'histoire.
Oui.
Puis qui t'amènent à réfléchir. C'est une autre façon de réfléchir. Hein. Pour ou contre, ça?
Non, c'est ça. C'est ça. La twist, le revers, c'est de dire, ben, tout le monde sait que
ouais.
les femmes gagnent moins d'argent que les hommes pour le même travail. Tout le monde sait que les femmes sont victimes de plus d'actes de violence que les hommes, que la violence faite aux femmes, statistiquement, etc. C'est des choses qui sont pas fausses nécessairement, mais qui sont pas vraies nécessairement, mais qu'on prend pour vraies. Et que quand tu les interroges, il y a une précipitation à te ranger dans la droite, mm-hmm. à te ranger dans le discours réactionnaire, à ouais. te ranger chez les chromos ou chez mon oncle.
Mais là, d'autant plus, c'est ça, la twist des médias sociaux puis de Twitter, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens de droite, ben c'est vrai, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais ça a été dit, mais qui ont embarqué dans son discours. Mais là, ça crée un glissement parce qu'à la place de dire « Bon, ben voici, regardons ce qu'il dit Jordan Peterson, puis là où il a raison, puis là où il exagère, puis là où... »
Comme on a déjà fait à la télé dans des émissions d'affaires publiques,
ben
autrefois
ouais.
dans ma jeunesse.
Ben ouais. Puis
c'est quoi son opinion, puis expliquez-vous.
Puis tu sais, des fois, moi, je trouve qu'il tourne les coins ronds avec des affirmations ou qu'il résume ce que Freud a dit, puis où il prend ça. Fait que, tu sais, c'est pas une... C'est ce que c'est. Mais là, on n'écoute même plus ce qu'il dit. L'argument devient sur comment les gens qui le suivent
Exactement.
Réagissent.
Exactement.
Et ça, c'est quand même, c'est terrible parce que là, t'es nécessairement pour la personne qui parle, c'est hors de ton contrôle de qui on parle.
Mais puis tu le vois, lui, il est allé voir finalement, est-ce que c'est vrai? Puis il se dit, mais non, la majorité.
Ouais.
D'abord, les gens à droite, ils m'aiment pas parce que je les aime pas.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je compte les tribalismes, tu sais. Fait que les suprémacistes, machin, je les aime pas. Fait que, donc, c'est pas vrai ce que vous me dites. Là, vous m'avez pris de court en me disant que c'est des jeunes... Tu sais, comme la représentation du
ouais.
white angry man,
ouais.
là, le, vous m'avez pris de court parce que je sais pas, je n'ai pas parlé de ceux qui me suivent, je sais pas trop, tu sais.
Mais même s'il y aurait plus, parce que ça, c'est possible, si on regardait ces conférences, qu'il y a plus de jeunes hommes qui viennent voir ces conférences que de jeunes femmes, disons.
Mm-hmm.
Mais par contre, tu l'idée qu'ils seraient « angry », va pas de soi, là.
Non, puis qu'ils sont tous à la droite, puis que c'est des suprémacistes, puis tout ça, on voit vraiment pas le rapport, en fait, entre le discours que lui tient, puis le suprémacisme, il y en a pas de rapport.
Ouais. Mais bon, à partir du moment...
C'est anti-suprémaciste,
où tu colles à quelqu'un l'étiquette que tous ses followers sont des jeunes hommes blancs suprémacistes de droite, un peu crackpot, c'est vrai que c'est dur de patauger avec ça, parce que c'est ce qui est dit et répété partout, ou en tout
oui.
cas beaucoup, puis à un moment donné, ben, comment te défendre contre ça, tu sais, t'es connais pas ces gens-là. Hein. Ben voilà, il y avait cette caractéristique-là avec laquelle il est pris, puis je pense qu'il a contribué à son malaise et à son retrait de la vie publique pendant un bout de temps, c'est quand en fait les gens te jugent plus ou commandent plus tes idées, tes réflexions, sur quoi tu t'appuies, la complexité que tu vois dans un problème et comment cette complexité-là est nécessaire pour trouver une potentielle solution, mais résume tout en fait une catégorisation des gens qui te suivent, puis en plus en souvent catégorisant, tu sais, parce que souvent ils vont dire c'est worshippers ou c'est trolls, ou tu sais, je peux comprendre qu'il y a plein de gens pour qui son message a eu un impact et de la portée, mais c'est pas évident non plus que des gens sont complètement subjugués par lui, tu sais.
Non, mais c'est qu'en fait, à mon humble avis, sa contribution à la pensée en général dans notre société en ce moment, elle est énorme. Ce qu'il va dire, lui, parce que ça l'a troublé, clairement, de se faire dire, ben là, t'es ami des alt-right, puis t'es du côté des méchants, par toute l'entreprise médiatique mondiale dont on s'est rendu compte avec lui et par la suite avec d'autres, à quel point, c'est-à-dire, elle fonctionnait main dans la main, là, tu sais, de Londres à Sydney en Australie, à Houston. Tu sais, il y a comme un discours qui se propage, qui est orienté par une entreprise médiatique qui fonctionne d'une façon X.
Mais son message qui transcende ça...
C'est qu'au début, il est ébranlé par le fait qu'on lui oppose ou qu'on lui reproche les gens qui sont interpellés par ce qu'il essaye de formuler.
Ouais.
Et là, on n'est pas rentré du tout dans le contenu, à part un petit peu les différences hommes-femmes, mais le contenu de ce qu'il propose, c'est vraiment intéressant et c'est riche et c'est étonnant que ça passe dans les médias mainstream.
Ouais.
Mais donc, au début, il est ébranlé par le fait qu'on lui oppose ou qu'on lui reproche ses soi-disant suiveurs. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir c'est qui ceux qui me suivent,
ouais,
et que par la suite, il est fier de pouvoir dire, ben, par exemple, dans l'ensemble des commentaires qui s'écrivent sur YouTube, les commentaires qui s'écrivent sous mes vidéos sont infiniment plus respectueux, civils, positifs, que la culture générale. Puis c'est vrai, là, quand tu vas voir les commentaires sous les vidéos YouTube, c'est pas la place où t'as envie, où tu te fais des amis. Là. Ouais. C'est assez... Fait qu'il est allé voir c'était qui, finalement, qui te suivait. Il était curieux, c'est sûr. Comment tu deviens prof d'université à vedette mondiale puis que tu sais pas c'est quoi qui s'est passé. Tu veux savoir c'est qui les gens qui...
Mm-hmm.
Tu sais? Puis donc, ce que ça révèle, c'est qu'il y a, dans la société actuelle, une soif pour quelque chose qui fait du sens.
Ouais.
Puis une masse de gens prêts à le défendre, pas parce qu'ils sont dans un culte, parce que c'est pas un culte, là, c'est un gars qui vous dit, ben comme, assumez vos responsabilités, déjà, ça va vous aider à trouver du sens. Cherchez quelque chose de difficile à faire,
ouais,
et faites-le. Déjà, ça va vous aider à donner du sens à votre propre vie, tu sais?
Oui, oui, puis qui va dire, dans le même ordre d'idée, essayez, tu sais, de comment vous allez vous orienter dans la vie. C'est quoi le rôle que vous voulez prendre? C'est quoi la place que vous voulez prendre? C'est quoi la responsabilité que vous avez de partager quelque chose de ce que vous avez appris sur vous?
C'est anti-cynique.
Oui, c'est ça. Puis c'est anti, tout est pareil.
C'est ça.
Tout se vaut, pourquoi pas, une chose et l'autre.
C'est ça, c'est ça. C'est anti se laisser aller, c'est anti-défaitiste.
Oui.
Puis c'est anti, tu sais, positiviste aussi, dans le sens, trouver une façon d'être heureux, vous, pour vous-même.
Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est vrai que tu soulignes. Oui, oui, c'est bon, ça.
C'est, la vie est difficile. La vie est difficile pour tout le monde.
Oui, 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 tout à fait.
Et puis, quand vous allez rencontrer des difficultés, si vous n'avez pas réussi à construire du sens, ça va doubler la difficulté.
Oui, c'est ça. Non,
vous
c'est
allez
bien, ça.
Obligatoirement rencontrer des difficultés dans votre vie, parce que la vie est dure.
Oui, c'est bon que tu soulignes, parce qu'on n'en avait pas parlé, puis c'est vraiment quelque chose de... central dans son discours, c'est ça, tu l'as dit, mais je le répète, c'est vraiment pas quelqu'un qui dit, qui est dans la psychologie positive ou qui va dire, ben, trouver le bonheur en vous, le bonheur dans les petites choses, la vie, c'est joyeux. C'est vraiment quelqu'un, puis tu sais, il y a le look, là, il est assez austère. La vie est une tragédie, oui. C'est tragique, entre autres parce qu'on sait d'avance qu'on va mourir.
Oui.
On est confronté à cette finitude-là intrinsèquement. Alors, vous allez avoir comme tu l'as dit, des difficultés, c'est tragique. Donc, mais quoi faire avec cette tragédie-là? Un peu comme tu disais tantôt quand Lacan disait quoi faire avec ces creux fondamentaux ou ces faiblesses. Il faut partir de là, il faut explorer ces éléments-là, il faut comprendre ça. Puis, donc, c'est vrai que son discours est à contrepoids tout à fait avec ce qui était peut-être plus présent, je ne sais pas quelle décennie, mais un truc cynique ou de satire ou de blague ou de... Tu sais, il n'y a rien de...
Mais aussi le cynisme ambiant, parce que, regarde, tu sais, pour vrai, moi, je comprends qu'on ait envie de soutenir l'émancipation des femmes, puis protéger les femmes contre les violences qui leur sont faites, puis, tu sais, comme soutenir les pauvres ou soutenir les minorités, travailler vers plus d'équité dans le monde, puis militer dans ce sens-là, parfaitement. Mais ça vient avec un discours préfait, puis une représentation du monde qui a l'effet contraire de favoriser ce qu'on appelle l'empowerment, de favoriser la prise en charge par chacun de sa propre vie, favoriser le mieux-être pour chacun.
Ouais.
Ça va plus dans le sens de dire, mais dans le fond, tu sais, comme ce qu'on disait avant de commencer à enregistrer, là, qu'à des enfants d'école, en ce moment, à Montréal, dans le réseau public, on transmette la notion qui est ferrandésienne, la notion que les changements climatiques, personne s'en occupe, c'est gravissime, il faut manifester. Pourquoi précisément, c'est pas clair, mais il faut manifester. Puis en plus, il y a trop de monde sur la planète.
Ouais.
Et c'est on pourra rien faire avec autant de monde, ça détruit la Terre. Et donc quoi? Que t'as des adolescents en ce moment qui se disent, ben de toute façon, il n'y a rien qui va changer rien. C'est ça aussi le cynisme.
Ouais.
C'est une conception du monde qui aboutit sur l'impuissance. Tu sais, qui met en évidence ce qui s'en vient de catastrophique ou ce qui est situation déplorable ou injustice, qui met tout ça en évidence et l'accompagne d'un discours d'impuissance et de toute façon... Fait que donc, tu as des adolescents qui disent, mais de toute façon, la planète est foutue, fait que...
Ouais.
Tu sais?
Pourquoi continuer?
Puis d'opposer à ça... c'est ça aussi, je pense, la résistance ou le scandale qui vient par quelqu'un comme Jordan Peterson. Et il n'est pas le seul.
Ouais.
Il a motivé d'autres têtes pensantes, gens brillants, là. Et sensible.
Mais donc,
aussi.
Parce que ça fait partie de la recherche, tu y es où le scandale?
Ben, c'est de dire votre discours, il est fondé sur des fausses assumptions. Ouais. C'est pas vrai. On peut faire quelque chose. On peut vivre une vie digne. On peut vivre une vie de service. Et ça, ça donne du sens.
Ce à quoi on lui reproche, hein? Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'il dit, puis c'est ce qui fait scandale. Mais ce à quoi on lui reproche, mais parfois avec raison, mais. Tu sais, ça serait une espèce de... C'est un peu ça qu'Athé Newman aussi, tu sais, d'une espèce de lui dire, mais ne pas reconnaître cette vérité-là d'iniquité, de n'importe quelle...
D'injustice. De
dire, ah, ben c'est plus complexe qu'il n'y semble, ça va dans le sens de protéger le statu quo, de noyer le poisson. Fait que c'est comme si on lui dit, non, mais... il faut montrer patte blanche, il faut dire oui, d'accord,
c'est ça,
avant de
à
penser.
Quoi il va te répondre, mais en fait, le statu quo, où est-ce qu'il faut qu'on sache c'est quoi le problème précisément avec le statu quo avant de se promener à vouloir tout détruire?
Ou de juste dire, ah ben, je suis pour ou je suis contre.
Oui, c'est ça.
Mais avec l'idée...
C'est pas grave, on peut tout effacer.
Mais qu'est-ce que tu disais? Parce que j'ai réagi à quelque chose.
Animus possessed.
Oui, c'est ça. Non, pardon. Oui, pardon.